Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 64. Le réseau de la rue du Bac. Comment une bande pédocriminelle a sévi pendant des années au cœur de Paris? Libération révèle que plusieurs intellectuels français sont mis en cause pour des crimes sexuels commis pendant plusieurs années sur des enfants, notamment la fille adoptive de l'un d'eux. Parmi eux, de grands patrons de presse, un avocat et l'écrivain Gabriel Matzneff. C'est une enquête journalistique aux révélations sidérantes, fruit d'efforts de plusieurs mois que Libération commence à publier ce vendredi, relatant sobrement le témoignage d'Inès Chatin, qui a déposé plainte pour dénoncer les crimes sexuels commis pendant des années par un groupe d'intellectuels parisiens sur des enfants. Cette histoire débute avec des noms, parmi lesquels deux patrons de presse, l'un d'entre eux idole des conservateurs et membre de l'Académie française, des écrivains et des artistes. Cette histoire se poursuit avec des victimes, dont l'une, aujourd'hui âgée de 50 ans, a accepté de nous livrer son terrible récit à visage découvert. Qui étaient ces intellectuels, ces notables du réseau pédocriminel de la rue du Bac? Voici un bref portrait de chacun des pédocriminels connus, bien d'autres le seront sans doute jamais, afin de bien se rendre compte du statut intellectuel, de l'influence qu'ils avaient et des protections dont ils pouvaient bénéficier de ce fait. Évidemment, comme bien souvent, tout le monde savait, dans le petit Paris, depuis très longtemps. Gabriel Matzneff. Alors le plus connu peut-être d'entre eux, puisqu'il avait quand même déjà été mis en cause avec le livre de Vanessa Springora. Donc, et puis c'était un militant pédophile à l'époque. Donc l'écrivain Gabriel Matzneff, né le 12 août 1936 à Neuilly-sur-Seine, auteur prolifique ayant publié une cinquantaine d'ouvrages, il reçoit quelques récompenses littéraires. Alors qu'il décrit dans certains de ses livres ouvertement autobiographiques des rapports sexuels avec des enfants et des jeunes adolescents, il bénéficie d'importants appuis, notamment dans la sphère littéraire et médiatique, tout en restant relativement méconnu du grand public. À la fin du mois d'octobre 1974, Gabriel Matzneff publie chez Julliard, dans la collection Idéfix, dirigée par Jacques Chancel, le livre qui s'appelle Les moins de 16 ans, un essai dans lequel il expose crûment son goût pour les jeunes personnes, soit les mineurs des deux sexes, semant le trouble car utilisant le mot enfant de manière indifférenciée pour des enfants ou des adolescents. Il écrit, je cite, Ce qui me captive, c'est moins un sexe déterminé que l'extrême jeunesse, celle qui s'étend de la 10e à la 16e année et qui me semble être, bien plus que ce que l'on entend d'ordinaire par cette formule, le véritable troisième sexe. 16 ans n'est toutefois pas un chiffre fatidique pour les femmes qui restent souvent désirables au-delà de cet âge. En revanche, je ne m'imagine pas ayant une relation sexuelle avec un garçon qui aurait franchi le cap de la 17e année. Appelez-moi bisexuel ou, comme disaient les anciens, ambidextre, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais franchement, je ne crois pas l'être. À mes yeux, l'extrême jeunesse forme à soi seule un sexe particulier, unique. Fin de citation. Gabriel Matzneff revendique pour lui-même la qualification de pédéraste, soit un amant des enfants, et utilise également le terme philopède, employé pour la première fois dans Les Passions schismatiques, un autre de ses livres. Il dénonce par ailleurs le fait que le charme érotique du jeune garçon soit nié par la société occidentale moderne qui rejette le pédéraste dans le non-être, royaume des ombres. Gabriel Matzneff admet cependant qu'à l'existence d'ogres, d'abuseurs sadiques d'enfants, il se souvient avoir toujours eu un faible pour les ogres et a d'ailleurs suscité la polémique en relativisant le 30 juin 1964 dans les colonnes de Combat, donc un magazine, le crime de Lucien Léger qu'il appelle un jeune homme seul ou le 21 avril 1966 l'affaire des meurtres de la Lande au Royaume-Uni. Il achève cependant son propos en dénonçant la confusion entre les criminels et l'ensemble des pédérastes qui apportent aux enfants, je cite, la joie d'être initiés au plaisir, seule éducation sexuelle qui ne soit pas une foutaise. Pour l'universitaire américain Julian Bour, la distinction opérée ainsi par Matzneff relève d'un désir de défendre les pédophiles bien intentionnés comme lui. Je cite, enfin, entre parenthèses, entre guillemets. Gabriel Matzneff, qui dans les années 70 fréquentait assidûment la piscine d'Euligny, revient sur ses goûts sexuels dans plusieurs de ses livres, notamment dans les différents tomes de son, je cite, journal. Déjà scandaleuse à l'époque de leur parution, ses confessions lui valent plus tard d'être un auteur controversé, surtout à partir des années 90, durant lesquelles la pédophilie est de plus en plus ouvertement dénoncée par les psychologues et les psychiatres. Alors, petite parenthèse, petit ajout, effectivement, il y a toujours ce truc de Matzneff se fait passer pour quelqu'un qui aurait des idylles, en fait, hein, avec les enfants, qui est amoureux d'eux sincèrement, et qui croit vraiment leur faire du bien et tout. Non, quand on lit son journal, il y a des passages, vous pouvez voir des conférences de Marion Sigaud sur le sujet. Non, non, il dit, moi, Moi, j'aime bien prendre les petites filles, les petits garçons. Mais bon, je préfère les petites filles parce que je peux les prendre comme des petites filles. Puis après, je les retourne et je les prends comme des petits garçons, etc. Enfin, on n'est vraiment pas dans. Enfin, il est clair que les enfants, pour lui, sont des objets sexuels qui n'ont pas de. Il les manipule, il les utilise pour son plaisir. À aucun moment donné, il ne leur décerne une existence ou enfin quelque chose d'égal ou même d'humain en fait. Enfin, c'est vraiment, ce sont des objets sexuels et c'est tout. Donc voilà, c'est souvent le truc sur lequel on joue, les soi-disant idylles, les soi-disant émancipateurs amoureux des enfants. Et puis quand on creuse un peu, quand on voit les écrits perso ou les écrits entre pédos, on se rend compte que c'est pas du tout vrai. Voilà. Revenons au deuxième personnage, Claude Imbert. Né le 12 novembre 1929 à Quin dans l'Aveyron, Claude Imbert commence sa carrière en 50 à l'agence France-Presse pour le compte de laquelle il partira plusieurs années en Afrique. En 64, il rejoint la rédaction du journal L'Express dont il sera rédacteur en chef à partir de 66. En 71, il quitte L'Express et entre comme rédacteur en chef à Paris Match. L'année suivante, en 72, avec les journalistes Transfuge de L'Express et Olivier Chevrillon comme PDG, il fonde Le Point, dont il est, pendant près de 30 années, le principal animateur, directeur de la rédaction, puis le directeur général. À partir de 1976, il est aussi éditorialiste le samedi matin sur Europe 1. En 2000, il cède sa place au point à François-Olivier Gisbert, mais continue de livrer un éditorial hebdomadaire au magazine. L'éducation, l'Occident, l'islam, les anciens, l'impotence publique. Ses articles ont marqué le journaliste, la vie publique et la société française. Auteur de nombreux livres, passionné d'opéra, de musique classique, de culture grecque et de littérature, ce bon vivant gastronome, fervent défenseur d'une culture pour tous et infatigable ennemi de la pensée unique, se revendiquait d'une philosophie hellénique, donc issue des Grecs. Claude Imbert était aussi un fin gastronome, il a été président puis administrateur de Goemio de novembre 92 à mars 97. Claude Imbert cochait toutes les cases de ce qu'on nomme une réussite éblouissante au sein du système. Il incarnait même cette réussite sociale, commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du Mérite et officier des Arts et des Lettres, est décédé en 2016. Il est un candidat malheureux au fauteuil de son ami et longtemps collaborateur Jean-François Revel à l'Académie française contre l'écrivain Max Gallo lors de l'élection du 31 mai 2007. Il est également membre de l'Automobile Club de France, qui n'accepte pas les femmes, et du Club des 100, qui ne les accepte pas non plus. Il est membre du club Le Siècle, le fameux, une association qui regroupe les dirigeants politiques, économiques, culturels et médiatiques. Ses membres sont en grande majorité des hommes parisiens et dirigés à l'époque par Olivier Duhamel. On vous renvoie à l'affaire de Camille Kouchner, donc qui était antérieure, et qui lui aussi donc a violé un de ses neveux, entre autres. Claude Imbert a monté de véritables réseaux de prostitution. Pour assouvir ses fantasmes pédocriminels, Claude Imbert avait recours à une filière de petits-enfants bulgares qu'il appelait sa réserve bulgare, on le verra plus tard. Troisième personnage, Jean-François Revel, de son vrai nom Ricard, mais ça faisait moins classe, ça faisait un peu plus alcoolo, est né le 19 janvier 1924 à Marseille, eh oui, normalien. Agrégé de philosophie, il enseigne en Algérie, à l'étranger ensuite, puis en France métropolitaine. Il quitte l'éducation nationale en 63. Dès 43 et jusqu'à la fin de la guerre, il participe à la résistance sous la direction d'Auguste Anglès. Journaliste de 60 à 63, il est d'abord rédacteur en chef des pages littéraires de France Observateur. Il fonde et dirige la collection Liberté chez l'éditeur Jean-Jacques Pauvert de 64 à 68, puis chez Robert Laffont. De 78 à 81, il devient directeur de l'hebdomadaire L'Express, dont il était l'un des éditorialistes depuis 66. En 82, il rejoint Le Point, donc dirigé par Claude Imbert, un ancien de L'Express, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en 2006. Élu à l'Académie française en 96, Jean-François Revel a écrit une trentaine d'ouvrages. Passionné de gastronomie, il adhère en 1978 au Club des 100. Revel reconnaît dans ses mémoires être alcoolique, un vice et une maladie très tôt contractée. L'alcool a sérieusement marqué sa vie mondaine, l'a imbibé d'amis, d'aigreur et de solitude. Amateur éclairé d'art et de poésie, Jean-François Revel est décédé en 2006 après avoir tenu son rôle de grand acteur de la vie intellectuelle et politique contemporaine. N'est-ce pas? Allez, on continue. François Gibault est né le 21 mai 1932. Dans le 7e arrondissement de Paris, sa famille est propriétaire du cinéma La Pagode, créé en 1931, l'unique cinéma du 7e arrondissement. François Gibault a mené une triple carrière. Il est d'abord avocat et a donc plaidé aux côtés du plus grand ténor de la profession. Il fut aussi officier dans l'armée française. Il est enfin écrivain et grand défenseur de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Il a notamment publié sa biographie en 3 tomes et c'est lui qui préside aujourd'hui à l'édition des manuscrits perdus puis retrouvés du sulfureux auteur. En 69, il est responsable du musée du barreau de Paris. Il en reste le conservateur pendant 30 ans. Anarchiste de droite, homosexuel, conservateur, Gibault a défendu des dictateurs comme Bokassa ou Kadhafi et il ne regrette rien. Il a participé à la tentative de reconnaissance de la filiation de Jean-Marie Loret, fils prétendu illégitime d'Adolf Hitler. Officier de la Légion d'honneur depuis 7 juin 1996, il a été promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur le 14 juillet 2011. À 60 ans, il rencontre celui qui deviendra le chanteur et acteur Philippe Nikolic des To Be Free. Oui, c'est bien ça. Qu'il suivra dans tous leurs concerts. Ah oui, d'accord. Le futur chanteur emménagera chez ce, entre guillemets, père spirituel. Pour sa part, Gibault évoque une relation strictement filiale, le mystère d'une relation entre deux hommes si différents. Leur relation durera 17 ans jusqu'au décès du chanteur. Là, je vous mets donc il y a un petit plan de Paris qui a été fait justement avec les différents acteurs où ils habitaient et on voit que bah, tout gravite autour de Saint-Michel et 5e, 6e arrondissement dans les années 70-80. Et donc voilà, on peut notamment voir sur cette carte des gens qui ont gravité autour des personnes qu'on vient de citer. Michel Foucault. Né le 15 octobre 1926 à Poitiers, mort le 25 juin 1984 à Paris dans le 13e arrondissement, est un philosophe français connu pour avoir fortement critiqué l'univers de la psychiatrie et pour ses idées libertaires sur la sexualité. Il fut l'une des premières victimes du sida en France. Dans différents entretiens et articles, Foucault développe sa conception du consentement de l'enfant aux pratiques sexuelles avec un adulte. Ben voyons. Il affirmera sur ce sujet, je cite, c'est difficile de fixer des barrières. À la fin des années 60, quand le philosophe vivait en Tunisie, il est accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec des enfants. Ils avaient 8, 9, 10 ans, il leur jetait de l'argent et disait « Rendez-vous à 22 h à l'endroit habituel ». Il leur donnait rendez-vous au cimetière de Sidi Bou Saïd, au clair de lune, et il les violait allongés sur des tombes. Balthus. Balthus est un peintre figuratif français d'origine prussienne, donc allemande d'une partie de l'Allemagne, et polonaise, né le 29 février 1908 à Paris et mort le 18 février 2001 à Château d'Aix en Suisse. Balthus a grandi dans une maison entourée d'art et d'artistes. Considéré comme un peintre sulfureux, Balthus a toujours aimé peindre de très jeunes filles érotisées. Il expose à la galerie Pierre Loeb en 1934 une série de tableaux mettant en avant des jeunes filles à la pose équivoque, thème qui crée le scandale et qui fera sa célébrité. Mais l'exposition est un échec, aucun tableau n'est vendu. En 2014, en Allemagne, une exposition de photos de Balthus évoquant la concupiscence est annulée. En 2017, une pétition en ligne à New York exigeait le décrochage d'un de ses tableaux accusé d'érotiser l'enfance. Il sera l'un des personnages cités dans l'affaire des réseaux pédophiles de Saint-Germain-des-Prés et dénoncé par Mathilde Brasillier. René Scherrer, bien connu, 25 novembre 2022. Il est né à Tulle et mort 1er février 2023 dans le 14e arrondissement de Paris. C'est un universitaire et philosophe français. Chantre dans les années 70 d'une réinvention de la pédagogie et de la relation enfant-adulte, il est allé jusqu'à faire dans ses écrits l'apologie de la pédophilie, ce qui a effacé l'ensemble de son œuvre. Il est également engagé dans le militantisme homosexuel. Il participe à la fondation du FAR, PHAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, groupuscule d'extrême gauche de soutien à la cause LGBT, on peut même dire précurseur du lobby LGBT, et très bien implanté à la fac de Vincennes, dont Guy Hogenkeim, un autre pro-pédophile bien connu, avec lequel il entretient une relation homosexuelle, en est un des principaux animateurs. Tout comme de nombreuses personnalités des milieux intellectuels et d'hommes politiques proches du pouvoir en place, il sera mis en cause dans la fameuse affaire du Corral en 1982. On ne va pas en reparler, il y a tout un article réseau qui parle de l'affaire du Corral, je vous y renvoie. Lors du procès correctionnel en 86, aucune personnalité n'a été poursuivie. Michel Tournier. Né le 19 décembre 1924 dans le 9e arrondissement de Paris et mort le 18 janvier 2016 à Choisel, un écrivain français. Philosophe de formation et germaniste, donc qui aime la langue allemande, Michel Tournier est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus célèbre est Le Roi des Aulnes, qui obtient le prix Goncourt en 1970. Ce roman, Le Roi des Aulnes, est considéré par certains comme présentant du contenu pédophile. Le récit du cauchemar d'une victime de violences sexuelles, d'un côté un protecteur aimant, de l'autre un violeur persuasif et sans scrupules. L'imaginaire pédophile de certains de ces textes rebuterait sans doute aujourd'hui les éditeurs. Bernard Pivot a reçu 17 fois dans ses émissions Michel Tournier, qui n'a jamais caché son goût pour les jeunes garçons et fut pendant 38 ans membre de l'Académie Goncourt. Émile Cioran, né en 1911 à Răzinari, en Roumanie, à l'époque austro-hongroise, d'un père prêtre orthodoxe et d'une mère agnostique et mélancolique, est un philosophe et écrivain roumain. Très jeune, Émile Michel Cioran, de son vrai nom Émile Mihai Cioran, développe une vision très noire du monde qui l'entoure. Dès l'âge de 22 ans, il s'illustre avec l'écriture de son premier ouvrage sur les cimes du désespoir. Il étudie en Allemagne et, de retour dans son pays d'origine, devient professeur de philosophie et intègre les jeunesses fascistes. Engagé comme professeur de philosophie en Roumanie, ses cours consistaient principalement à provoquer ses élèves, qu'il avait surnommé le fou dément. Il obtient presque 100% d'échecs pour ses étudiants, ce dont il est, paraît-il, assez fier. En 86, il fait la rencontre de Vanessa Springora, âgée de 14 ans, et dans un état désespéré très grave lié à la relation d'emprise que Maznev entretient avec elle. Elle espère trouver de l'aide auprès de Cioran, malheureusement, celui-ci va lui ordonner de se soumettre. Je cite: Vous l'aimez? Vous devez accepter sa personnalité. Gabriel ne changera jamais. C'est un artiste, un très grand écrivain. Le monde s'en rendra compte un jour. Ou peut-être pas, qui sait. C'est un immense honneur qu'il vous a fait en vous choisissant. Votre rôle est de l'accompagner sur le chemin de la création, de vous plier à ses caprices aussi, sacrificielle et oblative. Voilà le type d'amour qu'une femme d'artiste doit à celui qu'elle aime. Fin de citation. Voilà donc un petit peu les personnages incriminés jusqu'à présent. La liste est dressée. Revenons sur les déclarations donc d'Inès Chatin. Cette histoire a aussi un lieu, le triangle du 7e arrondissement de Paris, où le pouvoir politique, culturel et médiatique régnait dans une totale impunité. Je cite: Jusqu'au dernier moment, j'ai pensé ne pas y arriver, nous dit Inès Chatin de son audition. Audition qui fait aujourd'hui partie d'un dossier judiciaire d'une centaine de pages, documentant l'univers pédocriminel de la rue du Bac, dans un somptueux appartement acheté à la famille d'Ormesson par le docteur Jean-François Lemaire, l'homme qui livra entre autres ses enfants adoptifs dans des séances sordides dont la mise en scène cauchemardesque n'a d'égal que l'infâme sadisme à l'écrivain Gabriel Maznev et à ses amis. Je cite: Si l'adolescent sait qu'il se soumet à des règles condamnées par la société mais qui apportent finalement une certaine jouissance, eux, pourquoi pas? Expliquera froidement le docteur Lemaire à sa fille adoptive que Maznev surnommait ma petite chose exotique. Fin de citation. Eu égard à l'extrême violence des scènes rapportées par Inès Chatin, il a été convenu avec elle et ses avocats de ne pas en rapporter certaines à la première personne du singulier. Libération publie donc son récit, une enquête du journaliste Willy Ledevin, qui s'appuiera sur le dossier judiciaire pour raconter ces faits glaçants qui témoignent de la cruauté de ces hommes de pouvoir et du courage de la femme qui leur a survécu et qui parle aujourd'hui. Pour décrire sa vie, Inès Chatin use souvent d'un euphémisme dont on devine aisément qu'il est une défense pour s'épargner l'indicible. Je cite: Depuis ma naissance, je n'ai connu que des emmerdes. Qui oserait nommer ainsi les monstruosités dont cette femme de 50 ans a été victime et qu'elle n'a trouvé la force de révéler qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard? Longtemps, seule sa peau s'exprimait, étalant sur ses avant-bras l'éventail de maladies matérialisant les troubles invisibles. Puis les mots ont jailli à mesure que le pouvoir de ceux qu'elle présente comme ses bourreaux s'amenuisait et qu'elle s'éloignait du 97 rue du Bac, adresse maudite du 7e arrondissement parisien. Comme si sa mémoire acceptait enfin de décoder l'accès au coffre-fort de ses horreurs, ces derniers mois, Libération a réalisé plus de 60 heures d'entretien avec Inès Chatin, ainsi qu'avec ceux qui lui ont permis de rassembler les fragments de son passé. Un récit terrifiant en surgit, enrichi par une masse d'archives inédites documentant l'univers pédocriminel d'un noyau de l'intelligentsia parisienne des années 70-80. En 70-80, qui se prolonge jusqu'à les années 2000 quand même, hein, puisqu'ils sont toujours aux manettes de grands médias français, etc. À l'heure où s'étire la procédure judiciaire née de la publication en 2020 du livre Le consentement de Vanessa Springora, dans lequel elle décrivait la relation d'emprise qu'exerçait sur elle l'écrivain Gabriel Maznev lors de son adolescence, une autre débute cette fois pour Inès Chatin. À l'automne, cette dernière avait sollicité une audition auprès du parquet de Paris afin de dénoncer une litanie de sévices sexuels imposés durant son enfance, notamment par Gabriel Maznev. Lors d'une courte médiatisation, RMC avait alors révélé une lettre adressée à la justice par ses avocats, Marie Rimaud et Rodolphe Constantino, figeant le caractère vertigineux de ces révélations. Inès Chatin y était cependant restée anonyme, simplement désireuse d'obtenir des investigations à l'instar de celles engagées dans le cadre de l'affaire Springora, et ce, malgré la prescription qui s'applique. L'initiative a fonctionné puisque le parquet de Paris a réagi dès le 23 octobre avec l'ouverture d'une enquête préliminaire, offrant ainsi aux policiers de l'OFMIN, l'Office des mineurs, un nouveau cadre de recherche d'autres victimes. Car en réalité, et comme va l'exposer Libération dans une série de 6 épisodes intitulés Les hommes de la rue du Bac, la liste des personnes accusées excède largement l'écrivain au penchant pédophile revendiqué. En effet, Inès Chatin témoigne de viols et d'abus commis de ses 4 à ses 13 ans par un groupe d'hommes gravitant autour de son père adoptif, Jean-François Lemaire, médecin magouilleur auprès des assurances, fasciné par les cercles de pouvoir et les sociétés secrètes. Perpétré dans plusieurs lieux, dont l'épicentre était le domicile familial du 97 rue du Bac, les violences ont débuté non loin, rue de Varenne, dans un appartement mis à disposition par des amis de Jean-François Lemaire. Des jeux, entre guillemets, sexuels sordides, autre euphémisme qu'elle utilise devant l'OFMIN, y ont été réalisés sur des enfants, auxquels ont participé de façon certaine, selon Inès Chatin, le fondateur et directeur historique du Point Claude Imbert, l'écrivain académicien Jean-François Revel, l'avocat François Gibault, 92 ans aujourd'hui, défenseur en leur temps de Bokassa et Kadhafi, Gabriel Masneff et Jean-François Lemaire, son père adoptif. Lors de ces séances, où ces hommes n'étaient pas forcément tous présents en même temps, plusieurs enfants étaient rassemblés et devaient endurer des pénétrations réalisées tour à tour avec des objets métalliques. Ordre était donné de ne jamais exprimer sa douleur. Je cite, si quiconque pleurait ou manifestait une résistance, c'est sur lui que les hommes se concentraient, insistaient, raconte Inès Chatin, le corps encore bardé de spasmes. Fin de citation. Alors juste, on peut se poser la question, hein, donc les enfants adorent ça, mais quand on leur fait, s'ils expriment la douleur, non, on leur interdit. Petit peu de contradiction quand même, hein. Soi-disant, les enfants adorent, mais en fait, comme c'est des enfants, bah, ils vont pas mentir, hein, au départ, hein. Il faut les dresser à faire semblant d'adorer. Eh oui, c'est toute la perversion de ce genre de discours et de ces actes et de ces personnes. Je reprends. Durant ces pratiques sadiques, les hommes avaient le visage masqué et portaient sur eux une sorte de cape ou de manteau, comme d'hab. Sans pouvoir les impliquer formellement dans les sévices, Inès Chatin dispose aussi de souvenirs fragmentaires du président de la banque suisse Worms, Claude Janssen, et de l'architecte italien à la voix rocailleuse, Riccardo Gaggia. A minima, tous ces hommes partageaient selon elle une communauté de pensée, fondée sur de pseudo-références gréco-romaines et prônant l'émancipation sexuelle des enfants par l'adulte. Gabriel Matzneff expose ainsi leur doctrine dans Les Passions schismatiques parues en 77 et rédigées dans son plus pur style provocateur. Je cite. Je crois à la fonction socratique de l'adulte. Les anciens Grecs appelaient l'intelligence hégémonikon, qui signifie le guide. Tel Kim dans le roman de Kipling, un autre pédo, chaque adolescent a besoin de rencontrer un aîné qui soit un éducateur, un guide. Homère qui agite hystériquement contre moi l'épouvantail de la police et de la prison, je rétorque toujours sans me démonter que pour avoir initié leur progéniture et une sphère infiniment supérieure au marécage familial, et cela dans tous les ordres, on devrait non me punir mais me décorer. Fin de citation. Donc là, on reconnaît arrogance. Alors évidemment, on va aller prendre des enfants vulnérables dans des familles qui ne peuvent pas se défendre, hein, évidemment. Pas toujours, comme des fois on le voit là, dans des cas, ça ressort. À mesure que les années passaient et qu'Inès Chatin grandissait, les jeux se sont arrêtés pour laisser place à des viols, commis sur elle seule par Gabriel Matzneff et Claude Imbert. De prime abord, on résiste au récit d'Inès Chatin. Comment concevoir qu'une telle violence, une telle folie ait pu exister, initiée par le propre père adoptif de la victime? C'est une des clés de la mécanique du silence dans laquelle elle s'est longtemps murée. Qui pourrait la croire? Pourtant, son récit s'adosse aux nombreux documents qu'elle a livrés aux enquêteurs. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, les policiers de l'OFMIN décortiquent des semainiers détaillés de Jean-François Lemaire, des livres d'or de dîners mondains organisés rue du Bac, des correspondances inédites entre ces hommes, ainsi que des dédicaces de livres originaux. Ces éléments viennent signer l'extrême proximité de ce groupe d'intellectuels puissants que le docteur Lemaire désignait sous le terme « la bande » lors de déplacements communs en Asie du Sud-Est, notamment à Bangkok, décidément. Déjà à l'époque. Si Inès Chatin est si affirmative sur l'identité de ses agresseurs, c'est tout simplement parce qu'ils ont peuplé sa vie durant des décennies. Amis fidèles, mentors, compagnons de voyage de Jean-François Lemaire, ils étaient des figures de son quotidien, surgissant pour un déjeuner, un café ou le simple plaisir d'une discussion littéraire. Ils étaient là dès le réveil, au retour de l'école, le dimanche midi, de quoi ancrer chez elle un envahissant panthéon de souvenirs sonores et olfactifs. Le psychologue Jean-Luc Viau, chargé de réaliser une expertise de la plaignante à la demande de ses avocats, décrit en ces termes son traumatisme, écartant l'hypothèse d'une mémoire défaillante, je cite. Madame Chatin n'a pas souffert d'amnésie traumatique concernant ce qu'elle a vécu, mais, restée sous emprise, elle a refoulé une partie de ce vécu, ne gardant que quelques données sensorielles, un souvenir global, des événements, quelques images éparses, qu'elle situe difficilement dans le temps au sens chronologique précis. Un travail thérapeutique pourra lui permettre à terme d'affronter son vécu, ce vécu et de le reconstituer pour s'en dégager psychiquement et s'affranchir ainsi de l'emprise et de la place d'objet assignée par ses agresseurs. Fin de citation. Dans le langage d'Inès Chatin, cela donne, je cite, ces hommes étaient à l'intérieur de ma vie. C'est comme si je leur appartenais autant à eux qu'à Gaston. Elle utilise ce prénom comme une digue mentale pour désigner son père adoptif, nous y reviendrons. Je leur devais le même respect contraint, j'étais forcé à la même intimité, ils avaient les mêmes droits sur moi. Fin de citation. Donc, en fait, en termes clairs, on appelle ça un esclave sexuel, d'accord? Quelqu'un sur qui on a le droit de vie ou de mort. Au niveau sexuel, qu'on prête à des gens, on fait ce qu'on veut, on peut le prostituer, etc. Voilà. Je reprends. Parfois, son avocate Marie Grimaud se surprend à employer le terme oncle pour désigner Gabriel Mazneff, achevant ainsi de dessiner la métaphore d'un inceste collectif dont Jean-François Lemaire était le seul réel représentant familial. Ne résistant d'ailleurs à aucune indécence, Gaston a convié les tourmenteurs de sa fille jusqu'à ses noces en 97 avec Geoffroy Adair. Ce descendant d'une autre grande famille, expert en horlogerie, partage depuis sa vie, ses mots et son combat pour la vérité. Je cite: Tous ceux qui s'en prendront à ma femme trouveront un couple sur leur chemin. Notre force, c'est le nous. Fin de citation. Il existe au moins une autre victime identifiée de ces hommes, le grand frère d'Inès Chatin, lui aussi adopté via l'organisme La Famille Adoptive Française. De 2 ans son aîné, Adrien ne souhaite pas participer pour le moment à la démarche judiciaire entreprise par sa sœur, ni voir son histoire intime racontée dans la presse. Il a toutefois tenu à authentifier le témoignage d'Inès en paraphant chacune des 3 pages du texte dans lequel elle détaille les crimes endurés. Au pied, il a apposé les mots suivants, je cite: Je sous-signais Adrien, m'associe au récit de ma sœur Inès Adair, mais ne souhaite pas être davantage mêlé à son action pour ne pas replonger dans ce passé douloureux. Fin de citation. Les enquêteurs de l'OFMIN disposent de cet écrit ainsi que du nom de 2 autres enfants, victimes selon Inès Chatin des mêmes violences à l'époque. Dans cet univers où les hommes régnaient en maître incontesté, une autre personne a été la cible de brimades et de soumissions, Lucienne Chatin, la mère adoptive d'Inès, descendante d'une grande famille d'industriels lyonnais. Je cite: Maman, c'est le plus beau souvenir de mon enfance, confie sa fille, la voix étranglée au moment d'évoquer celle qui n'a pas su les sauver, elle et Adrien. Fin de citation. Dans une mécanique bien huilée de la terreur, Jean-François Lemaire humiliait et battait sa compagne en cas de comportement jugé inapproprié des enfants, parmi lesquels poser des questions. Je cite: Quand on était petit, la conséquence de la parole, c'était les coups. Pas sur nous, mais sur elle, la mère. Si on faisait quelque chose de travers, quoi que ce soit, une mauvaise note à l'école, il y avait des coups sur elle, explique Inès Chatin. Fin de citation. Cette dernière s'est donc entraînée à se taire et à rester impassible en toutes circonstances. Pour cela, elle a même inventé une expression: pleurait à l'intérieur. Aujourd'hui encore, elle dit ne jamais trouver les larmes, même lorsqu'elle est contrainte de se remémorer ce qu'il y a de plus noir. Après des années passées près de Genève, où elle a fondé une famille avec Geoffroy Adair et travaillé comme journaliste et rédactrice dans la com, Inès Chatin regagne Paris en 2016. Le somptueux appartement de la rue du Bac, qui n'était autre que le salon littéraire de la princesse de Salm au début du XIXe siècle, est désormais équipé d'un lit médicalisé pour sa mère. Mais sa dépendance devient trop forte. Les époux Lemaire intègrent l'EHPAD Le Corbusier de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, courant octobre 2020. Inès exige alors que sa mère soit placée dans une autre chambre que celle occupée par Jean-François Lemaire. Pour la première fois, la voilà libérée de son joug. Mieux, la sœur de Lucienne, avec qui elle était très liée, est installée dans la chambre voisine, si bien que ses journées sont enfin douces. En hommage à sa mère, Inès a supprimé le nom de Lemaire de son état civil le 5 août 2022 pour lui substituer celui de Chatin. Grâce aux dispositions de la loi Vignal, je cite, ne plus porter le maire était aussi une façon de dénier à Gaston le droit d'être un père, cingle-t-elle. Fin de citation. Parallèlement, elle se lance avec ses proches et Adrien dans la liquidation totale du 97 rue du Bac. Objets, œuvres d'art, livres, tout ce qui est frappé du sceau de l'infamie doit disparaître. L'appartement sera vendu en 2022, réaménagé de fond en comble par de nouveaux propriétaires, loin des affreux du passé. Mais avant, il a suffi de déplacer quelques meubles, d'ouvrir des tiroirs interdits d'accès pour qu'un nouveau monde s'ouvre. Les secrets des hommes de la rue du Bac avaient mis tant de soins à bâtir, va se fracasser. Sous les coussins d'un canapé, des cartes postales et des lettres de Mazneff, dont certaines mentionnent nommément Vanessa Springora. Dans les rayonnages les plus hauts des bibliothèques, des ouvrages ouvertement pédocriminels. Enfin, dans une pièce à l'architecture très particulière, reproduisant la cabine d'un bateau, sont dissimulés tous les livres dédicacés par Matzneff, ainsi que Le Moine et le Philosophe, un essai publié en 97 sous forme de dialogue entre Jean-François Revel et l'un de ses enfants, le bouddhiste Mathieu Ricard. Je vous renvoie à un article où on parle du bouddhisme, un article réseau. Dont le sujet était la ville d'Auroville en Inde, mais il y a toute une première partie justement sur tous les cas un petit peu dans les sectes bouddhistes et tout, et on voit que Mathieu Ricard a tout à fait essayé d'étouffer les affaires de pédocriminalité dans le bouddhisme français. Je reprends. Et puis, scotché à l'intérieur du secrétaire personnel de Lucienne Chatin, une mystérieuse enveloppe contenant les pages déchirées d'un magazine pornographique sadomasochiste. Sur les images figurent uniquement des hommes, masqués de noir, et montrés dans des positions obscènes et suggestives. Inès Chatin y perçoit une volonté de sa mère de laisser derrière elle une trace de l'indicible, ce qui va déclencher chez la femme qu'elle est devenue une légitimité nouvelle à poser toutes les questions, y compris les pires. Dans son expertise, le psychologue Jean-Luc Viau use de cette métaphore pour illustrer la mue brutale d'Inès Chatin, je cite: Si son existence a longtemps ressemblé à un couloir parsemé de portes fermées, elle allait à présent toutes les ouvrir. Fin de citation. C'est là l'autre aspect hors du commun de la vie d'Inès Chatin. À 47 ans, elle va devenir une enquêtrice acharnée de sa propre histoire, allant même jusqu'à interroger et enregistrer son père adoptif à l'EHPAD, qui reconnaîtra son implication dans les crimes, en justifiera le bien fondé et éclaboussera même certains de ses amis. Dans le dédale de la rue du Bac, elle va aussi retrouver les traces de dons effectués par ses parents à l'association La Famille Adoptive Française. Logiquement, elle en conclut que c'est par l'intermédiaire de cet organisme qu'elle a échoué dans l'antre du malin, nom donné au 97 rue du Bac par son mari, Geoffroy. Avec le concours d'un détective privé, elle va d'abord recomposer le puzzle administratif de son adoption pour s'apercevoir qu'elle est frappée de multiples irrégularités. Comme le démontrera Libération dans l'épisode suivant de cette série, la FAF, donc la fameuse Association Famille Adoptive Française, a laissé prospérer en son sein, au début des années 70, une filière parallèle de recueil d'enfants abandonnés. Inès Chatin est passée par ce circuit détourné, arrivant chez les époux Lemaire de façon particulièrement nébuleuse. Aujourd'hui, l'une des questions essentielles à ses yeux est justement de savoir si elle a été sélectionnée à dessein par Gaston, et si oui, sur quels critères. Le fait qu'Inès Chatin soit métisse n'a jamais été neutre dans les sévices sexuels qu'elle a subis. Lors des viols, Gabriel Matzneff semblait même se repaître de cette caractéristique physique, puisqu'il l'a surnommée ma petite chose exotique. Via son réseau tentaculaire, le docteur Lemaire a-t-il pu s'arroger des enfants dont la destinée était de subir des crimes sexuels? Les premières recherches entreprises par l'enquêtrice privée permettent de constater la présence du nom de François Gibault, qu'elle met en cause comme agresseur sur une copie de son jugement d'adoption daté du 2 mars 2000. L'avocat qui a été aussi le conseil personnel de son père adoptif est-il la preuve vivante, l'impensable trait d'union entre les drames de sa vie? Contacté par Libération, François Gibault a répondu via une lettre envoyée par son conseil, Jérémy Assous. Il y assure n'avoir jamais assisté au moindre acte criminel et n'aurait pas manqué, si cela avait été le cas, d'y mettre un terme et de les dénoncer immédiatement aux autorités. Oui, ben voyons. Il conteste donc avec vigueur les allégations d'Inès Chatin, dont il estime le récit inexact. Sur la présence de son nom sur une copie du jugement d'adoption d'Inès Chatin, François Gibault demeure mutique. Joint également, Gabriel Matzneff n'a pas donné suite. La famille Imbert a réagi, elle, par la voix du fils de Claude, l'avocat Jean-Luc Imbert, je cite. Cela me paraît étrange de la part d'Inès Chatin, ils se connaissent de longue date, de jeter le discrédit sur son père adoptif. Pour autant que je sache, Jean-François Lemaire et son épouse se sont magnifiquement occupés d'elle. Ah oui, elle est vraiment très ingrate. Quant à mon père, il aimait les femmes, mais pas les petites filles. On est dans l'époque MeToo, c'est notre maccartisme. Ah oui, tout à fait. Fin de citation. Et oui, bien sûr, la chasse aux sorcières, les pédophiles sont des pauvres victimes du maccartisme, bien sûr. Alors le maccartisme qui n'avait rien à voir, hein. C'était aux États-Unis, c'était les capitalistes ultralibéraux états-uniens qui faisaient la chasse aux communistes. Donc entre le communisme et la pédophilie, tout va bien, le parallèle évidemment. Tiens. Après publication de notre enquête, Jean-Luc Imbert précise, je cite, il va de soi que je ne puis qu'ajouter que si les faits rapportés sont exacts, ce dont je persiste à vouloir douter. Oui, mais on te demande pas si tu doutes ou pas, on te demande si tu le sais, si tu le sais pas, et si tu le sais pas, ferme ta bouche. J'en suis accablé et évidemment profondément désolé pour Inès, ne me doutant pas une seconde de l'éventualité que mon père, comme ceux que je connaissais parmi les personnes citées, puisse s'égarer dans de tels comportements aussi abjects qu'inadmissibles. Point. Oui, ben, juste ferme ta gueule, pourquoi tu réponds? Enfin, les enfants de Jean-François Revel, Ève et Mathieu Ricard, ainsi que Nicolas Revel, nous ont fait parvenir la déclaration suivante. Je cite. Le récit d'Inès Chatin faisant état de la participation présumée de notre père Jean-François Revel à des actes d'agression sexuelle sur mineurs constitue pour nous un choc immense. Face à la gravité des accusations portées, nous souhaitons que la justice qui a été saisie puisse établir ce qui s'est réellement passé, quand bien même ces faits remonteraient à plus de 40 ans et impliqueraient de nombreuses personnes, pour beaucoup disparues. C'est l'attente de la victime qui a déposé plainte et dont nous ne doutons d'aucune manière de la sincérité et de la douleur. C'est aussi notre attente car ces accusations nous plongent dans une incrédulité d'autant plus profonde qu'elles concernent un homme, notre père, dont tout ce que nous savons de sa personnalité comme de son comportement tout au long de sa vie se situe aux antipodes des actes monstrueux qui lui sont prêtés. Fin de citation. Voilà, donc ça c'est une réponse un peu plus langue de bois. Mais venant quand même d'un monsieur, Mathieu Ricard, qui a tout à fait étouffé les affaires de pédocriminalité au sein du bouddhisme français, je vous le rappelle. Comme le Dalai Lama, etc. 14 décembre, l'audition de dépôt de plainte devant l'office des mineurs fut un premier Everest pour Inès Chatin, je cite. Jusqu'au dernier moment, j'ai pensé ne pas y arriver. Puis j'ai vu les gardes qui surveillent le bâtiment avec des pistolets mitrailleurs, et là je me suis dit, c'est bon, je suis en sécurité, je peux enfin raconter. Fin de citation. Durant plus de 7 heures, elle pave son récit de détails précis qui ont retenu l'attention des policiers. À l'égard de ses agresseurs, Inès Chatin n'exprime aucun désir de vengeance. Elle sait de toute façon que Claude Humbert, Jean-François Revel et Gaston, morts il y a quelques années, se sont déjà échappés. Pour les vivants, elle dit, je cite, aller en prison n'aurait plus aucun sens. Je veux que la justice les confronte à la gravité de leurs actes, s'en prendre à des enfants est inqualifiable. Fin de citation. Surtout, elle souhaite agir pour interrompre la reproduction des comportements pédocriminels, être un grain de sable comme l'a pu être Camille Kouchner de la Familia Grande. Ce livre, Autopsie de l'inceste commis sur son frère par son beau-père Olivier Duhamel, a bouleversé Inès Chatin et l'a convaincue de poursuivre sa quête. Parler, c'est vivre en paix. Aujourd'hui encore, elle affirme entendre des propos invoquant la permissivité des Grecs et des Romains dans les dîners de la haute société conservatrice. Peu ou prou les mêmes que ceux réitérés par Jean-François Lemaire, parfaitement froid et lucide lors de leurs entretiens enregistrés depuis l'EHPAD en 2021, je cite. Si l'adolescent sait qu'il se soumet à des règles condamnées par la société, mais qui apportent finalement une certaine jouissance, eux, pourquoi pas? On l'avait déjà cité. Aux origines de l'adoption de la jeune Inès Chatin, une procédure nébuleuse et une entremetteuse. Alors, on peut quand même déjà dire que ben, ça fait longtemps que l'adoption, elle est un peu, c'est un processus qui peut être utilisé par des pédophiles pour adopter des enfants à des fins d'avoir des esclaves sexuels. Quid de la GPA? Aujourd'hui, par exemple, des couples homosexuels, donc il y a un exemple aux États-Unis, donc là, il y a un couple homosexuel à adopter avec la GPA, et ben alors, les deux enfants qu'ils ont adoptés, ben, ils les ont violés pendant des années. Vous voyez? Donc c'est comment, mettez-vous à la place d'un pédo, c'est difficile pour des gens sains, comme certainement vous qui écoutez, mais comment accéder à des enfants? Puis quand on est un pédo homosexuel, comment accéder à des enfants? Et avoir ce qu'on veut tout le temps. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on fait semblant d'aimer une femme pour lui faire des enfants pour après voilà, la soumettre et soumettre ses enfants et être une sorte de tyran qui viole tout le monde dans la famille et frappe tout le monde? Est-ce qu'on, si on est homosexuel, qu'on ne veut pas se marier de manière hétérosexuelle pour faire semblant parce que ça ne nous intéresse pas, comment on fait? Est-ce qu'on peut acheter des enfants? Est-ce qu'on peut se faire confier des enfants? Est-ce qu'on monte des structures où il y a des enfants où on peut avoir l'autorité dessus? Est-ce qu'on fait des orphelinats au Cambodge? Est-ce qu'on fait des associations pour aider les petits garçons en difficulté? Bref, revenons à notre propos. Pour comprendre la façon dont elle est arrivée chez Jean-François Lemaire, elle qu'elle accuse d'avoir participé à un groupe pédocriminel dont elle fut la victime, Inès Chatin a remonté le fil de son adoption. Celle-ci comporte de nombreuses irrégularités et laisse entrevoir un trafic d'enfants organisé au sein même de l'association La Famille Adoptive Française. L'histoire d'Inès Chatin est aussi celle d'une longue quête de ses origines. Élevée dans un univers pédocriminel du Paris germano-pratin, elle ne put jamais questionner ses parents sur leur choix d'adopter leurs deux enfants, elle et son grand frère Adrien, via l'organisme principal de l'époque, La Famille Adoptive Française. La FAF est un organisme autorisé pour l'adoption apolitique et non confessionnelle, fondé par Dominique Crétin, ingénieur SNCF, et son épouse en 1946. L'association avait pour vocation première d'aider des enfants de cheminots déportés ou morts dans la résistance à retrouver des familles de substitution. En 1948, plus de 400 enfants de 0 à 19 ans avaient déjà trouvé une famille. Une collaboration étroite se mit en place entre la Croix-Rouge française et l'assistance publique, permettant l'adoption de nombreux enfants nés en Allemagne de mères allemandes et de pères français des forces d'occupation. Des enfants arrivèrent ensuite de Corée et du Liban. Par son action et son rayonnement, la famille adoptive française apporta une importante contribution au vote des lois de 66 sur l'adoption plénière. En 73, Simone Chalon devient directrice de la FAF. Elle restera à ce poste jusqu'en 2007, laissant à tous un souvenir marquant. En 78, commença notre collaboration avec les autorités et associations colombiennes permettant l'adoption d'enfants de ce pays. En 83, la FAF est reconnue d'utilité publique. Elle a pu donner une famille à près de 6 000 enfants nés en France ou à l'étranger. Elle fait partie de la Fédération française des organismes agréés pour l'adoption, la FFOAA. En 96, elle marque ses 50 ans par l'organisation d'un colloque à l'UNESCO. Revenons sur la famille d'adoption. Chez elle, le carcan du silence ne permettait aucune transgression, et les rares fois où elle s'est hasardée à sonder son père adoptif, Jean-François Lemaire, son autoritarisme coupait court à toute discussion. Médecin auprès des assurances, il menait une vie nimbée de mystère, et exerçait sur son épouse, Lucienne, des violences physiques et verbales répétées, si bien qu'elle ne put jamais disposer d'une quelconque liberté, même de parole. Ce huis clos étouffant explique aussi qu'Inès Chatin n'ait jamais pu lever le voile sur les sévices sexuels subis de ses 4 à 13 ans qu'elle attribue à Jean-François Lemaire et à ses puissants amis, banquiers, avocats, écrivains. Pour que sa parole se libère, il a fallu attendre que les époux Lemaire soient placés en EHPAD à l'automne 2020. Peu à peu, Inès Chatin fait de nombreuses découvertes en vidant l'appartement dans lequel elle a grandi au premier étage du fastueux 97 rue du Bac. Outre des écrits étayant les liens entre ses tourmenteurs, celle qui approche alors des 50 ans met la main sur des reçus de dons effectués à la FAF. Sachant sa mère enfin en sécurité à l'EHPAD dans une chambre distincte de ce père honni, qu'elle surnomme Gaston, Inès va faire de ses reçus le point de départ de la plongée vers ses origines. Tout est étrange. Afin de recomposer les différentes strates de son dossier administratif, elle décide de recourir au service d'une enquêtrice privée. Ensemble, elles vont se procurer auprès de diverses institutions judiciaires, archives nationales, des documents troublants, interrogeant les conditions comme la régularité de son adoption. Compte tenu de la gravité de son vécu, Inès Chatin suspecte directement Gaston d'avoir recouru à un trafic d'enfants orchestré par son réseau amical et politique. Si la FAF ne dispose plus de l'agrément des autorités, l'organisme dont le siège est basé à Boulogne-Billancourt est toujours habilité à ouvrir ses archives lorsque des demandes valides lui sont adressées. Depuis les premiers contacts avec la structure en décembre 2021, Inès Chatin a obtenu 4 entretiens à la FAF, réalisés avec l'actuelle directrice Christine Delettre ou la psychologue de l'association Alice Lévy. Coopérative sur certains points, les deux interlocutrices vont l'être nettement moins sur d'autres, manifestement embarrassées par la foultitude d'anomalies qui barrent le dossier d'adoption. Tout est étrange, ne cessera d'ailleurs de répéter Alice Lévy en feuilletant les pages. Contactée par Libération, la FAF jure au contraire avoir transmis à Madame Chatin, conformément à sa demande, tous les éléments présents dans son dossier au 20 décembre 2021. Sur ce point, l'enquête préliminaire, ouverte le 23 octobre par le parquet de Paris, permettra peut-être d'en savoir davantage, puisque le processus d'adoption fait partie intégrante de la plainte déposée par Inès Chatin à l'Office des mineurs. C'est lors du premier entretien avec la psychologue Alice Lévy qu'Inès Chatin va découvrir sa véritable identité. Son acte de naissance originel lui est présenté. Le 9 septembre 1973, à 9h30, est née à Montpellier Bérénice Duhamel, de Martine Duhamel, alors âgée de 19 ans. Détail qui a son importance, la majorité est à l'époque fixée à 21 ans. Donc sa mère était mineure au moment de l'accouchement. Partie sans laisser de traces en 73, Martine Duhamel est toujours vivante. Inès Chatin l'a retrouvée et les deux femmes se sont rencontrées à plusieurs reprises dans un café de la place de la Comédie à Montpellier. Si le choc émotionnel fut intense pour Inès, il le fut tout autant pour cette femme qui voyait soudain ressurgir l'enfant qu'elle a abandonné quelques jours après sa naissance. Désireuse de ne pas s'impliquer, de ne s'impliquer qu'à minima dans la quête de sa fille, et très éprouvée par les informations sur les sévices sexuels qu'Inès Chatin lui a livrés pour expliquer sa réapparition 49 ans plus tard, Martine Duhamel ne s'exprimera pas dans notre série. Tout juste a-t-elle permis à Inès d'en savoir plus sur les conditions de sa naissance, le point de départ de cette existence jalonnée d'emmerdes, comme elle le dit si souvent. Comme si on avait voulu évincer mon père biologique. En 73, Martine Duhamel vit dans un foyer pour mères adolescentes du nord de Montpellier, l'abri Languedocien. Fondé en avril 46, a pour but de venir en aide aux mineurs, plus spécialement aux filles mères délinquantes ou inadaptées. Jean Cadier en est le président et Marguerite Bosque la directrice. Bien qu'âgée de 19 ans seulement, elle y élève déjà un petit garçon. Voilà 5 ans, elle avait été placée une première fois dans une structure spécialisée, niché dans une propriété des Rothschild, le château de Laversine, après que ses parents ont perdu tout droit sur elle. Selon l'expression consacrée, elle est donc un enfant de l'ADAS, ancien nom de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. mais Martine Duhamel sera envoyée de Laversine lors de sa première grossesse. Décidément, rien n'a changé, hein. Il y a des abus sexuels dans les foyers pour mineurs, et enfin bref. La jeune mère arrive alors à l'abri languedocien, un établissement plus adapté, dirigé par Louise Berthe, une travailleuse sociale qui œuvrait dans les lieux de prostitution et les foyers mères adolescentes du sud de la France. C'est dans ce cadre, en proie à une très grande précarité, qu'elle va croiser le père biologique d'Inès Chatin, un étudiant en pharmacie. De son propre aveu, leur histoire bornée à un ou deux rendez-vous n'avait rien à voir avec l'amour. Lors des entrevues avec sa fille, Martine Duhamel en dit d'ailleurs le moins possible sur cet homme. Inès Chatin va insister pour que sa mère biologique se soumette à un test ADN. Le résultat confirme 99,9% que la quasi-septuagénaire est sa génitrice. Mais soucieuse d'en apprendre davantage, Inès va ensuite publier son propre ADN en ligne sur la base de données MyHeritage. Des semaines plus tard, son génome va matcher à 22,9%, ce qui est élevé avec un dénommé Serge Roux, présenté par le site comme un potentiel oncle ou demi-frère. Miracle, la trouvaille se révèle juste. Serge Roux n'est autre que le frère d'Hubert Roux, un pharmacien qui se trouvait dans le Languedoc-Roussillon en 73 en raison de l'affectation à Nîmes de son père militaire. Tout s'explique enfin jusqu'au métissage d'Inès Chatin, puisque Hubert Roux est d'origine ivoirienne. Avant son décès, le 30 novembre 2023, il aura le temps de dire à sa fille biologique au téléphone qu'il désirait la garder et l'emmener avec lui en Côte d'Ivoire, où il a vécu une grande partie de sa vie. Il confiera aussi qu'on l'en a dissuadé. Les jours qui suivent la naissance de Bérénice se révèlent nébuleux. Avant sa mort, Hubert Roux a avoué à Inès que Martine Duhamel l'avait non seulement avisée de sa grossesse, mais lui avait ensuite présenté un enfant blond. Surtout, elle lui aurait, sur le moment, affirmé l'air grave que le bébé était atteint de mucoviscidose, une maladie rare et mortelle. Je cite: Mon père biologique a trouvé tout cela bizarre, rapporte aujourd'hui Inès, comme si on avait voulu l'évincer. Fin de citation. Cette anecdote est la première d'une longue série d'étrangetés, pour reprendre le propre terme d'Alice Lévy, la psychologue de la FAF. Les bébés adoptés et l'entremetteuse. Martine Duhamel mettra 16 jours à déclarer la naissance de son enfant, une éternité pour celle qui désirait, semble-t-il, accoucher sous X et dont la parole n'a pas été respectée. À Inès, elle a même révélé s'être immergée dans les bains de moutarde avec l'espoir que cela provoque des contractions et un avortement naturel. Soit le terrible quotidien des femmes avant 75 et la loi Veil légalisant l'IVG. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il faut replacer la suite, un instantané échappé des années 70, difficile à concevoir de nos jours. Alors ça, c'est bien un bon petit insert de libération, on aurait pu le faire sauter. Afin d'abandonner officiellement sa fille, Martine Duhamel signe un acte chez un notaire montpelliérain, maître Fernand Aldorf. Mais la jeune femme est mineure, il aurait fallu, pour que le document ait une quelconque valeur juridique, qu'il soit signé par son tuteur légal resté au château de la Versine. Une faille qui aurait déjà dû stopper le processus d'adoption. Par la suite, la jeune mère confie Inès Chatin à une femme au parcours hors du commun qui occupe alors un appartement de la résidence Lexiclamène dans Montpellier où se bousculent les rapatriés des colonies. Ex-enseignante en Algérie, Henriette Dauchez, mâle, qu'Inès nomme l'entremetteuse, a ce point commun avec Jean-François Lemaire d'avoir une vie remplie d'activités obscures. Selon plusieurs témoignages, son logement a servi à recueillir plusieurs bébés en dehors de toute procédure légale. Cette histoire, c'est la fille d'Henriette Dauchez-Malle qui la raconte. Inès l'a retrouvée à force de tâtonnements et de confrontations des versions parcellaires de son abandon, livrées par Martine Duhamel et la FAF. Lorsqu'elle se contacte pour la première fois, Véronique Dauchez-Malle a d'emblée ces mots: Cela fait 50 ans que j'attends cet appel. Comme si l'heure était enfin venue d'exorciser un lourd secret de famille. Fin avril, Véronique reçoit libération dans son appartement du quartier Estanov, situé non loin des Cyclamènes. Sur le balcon, des tortues achèvent paisiblement leurs feuilles de salade. Cette femme de 68 ans est un témoin direct du passage éphémère des enfants chez sa mère. Elle avait entre 16 et 17 ans et Henriette la réquisitionnait pour s'occuper des bébés qu'elle récupérait auprès des filles mères à Montpellier, Marseille ou Nice. Je cite: Les enfants étaient amenés directement à la maison ou bien ma mère allait les chercher dans un couffin en osier. Moi, je m'occupais d'eux, je les changeais, je les couchais, je leur donnais les biberons. Je dirais qu'entre 20 et 25 bébés sont passés chez nous. Parfois, les enfants et leur mère étaient pris en photo. Pour qui? Je ne sais pas. Mais j'ai gardé des souvenirs de beaucoup d'entre eux, dont Bérénice, elle s'appelle toujours Inès Chatin, ainsi. Elle appelle toujours Inès ainsi. Fin de citation. Au terme d'une période allant de quelques jours à plusieurs semaines, les bébés faisant ensuite l'objet d'une adoption qui avait tout d'un habillage factice. Plusieurs traces de passage des nourrissons existent, notamment un cahier à spirale que Véronique dit avoir gardé, dans lesquels sont inscrits les noms de ceux qui sont passés par les Cyclamènes. Certains étaient handicapés, deux autres sont arrivés de Corée. Véronique a en outre correspondu avec certains des enfants dont elle s'est occupée, immortalisant par écrit ce capharnaüm de trajectoire intime. Enfin, une ex-dirigeante de la FAF lui avait aussi envoyé des mots de remerciement pour son investissement auprès des bébés. Activités illicites et archives de la FAF. Si l'association demeure aussi embarrassée, c'est parce qu'Henriette a été membre de son conseil d'administration entre 1975 et 1976. D'ailleurs, la directrice de la FAF, Christine Delettre, a d'abord dissimulé son existence à Inès. Plus tard, elle finira par reconnaître son statut et le caractère trouble de ses activités. Or, dans sa réponse officielle à Libération, la FAF s'attache à prendre cette distance avec ce personnage. Je cite: Les actions de recueil ayant été conduites par Mme Dauchez-Malle à cette époque ne sont pas connues de notre équipe et, au vu des éléments d'archives dont nous disposons, ne relevaient pas de ses fonctions au sein de l'association. Fin de citation. Et de compléter, je cite: Elle a été la représentante de l'antenne locale de l'association de Montpellier à partir de début 1973, où son rôle se résumait à deux actions. Prendre contact avec les candidats de la région qui avaient fait une demande auprès de la FAF à Paris afin de leur donner les premiers renseignements. Et faire connaître l'existence de la FAF et son fonctionnement aux jeunes femmes qui désiraient confier leur enfant à l'adoption. Fin de citation. Toujours est-il que l'activité illicite d'Henriette semble bien avoir été découverte en 1976, puisque d'autres institutions avec lesquelles elle travaillait l'ont radiée, notamment le planning familial. À la FAF, on dit seulement qu'elle a démissionné. Façon pour l'organisme de s'éviter à l'époque des accusations de trafic. Tu m'étonnes. C'est d'ailleurs le mot qu'emploie Véronique en se remémorant cette période douloureuse. Je cite: Ma mère était une femme dure, secrète. En rentrant d'Algérie, elle a d'abord vendu des appartements, puis elle a été enquêtrice sociale pour le tribunal de Montpellier et s'est investie dans les associations comme SOS Amitié. Elle portait de vrais engagements, comme aider les mères en difficulté. Je l'entendais par exemple dire: Bon, je vais m'occuper de vous, on va faire partir l'enfant à l'association. Mais oui, c'était du trafic. En tout cas, moi, j'ai envie de le dire comme ça. Fin de citation. Et effectivement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si on se dit que ah, oh, mais ces petits-enfants, les pauvres, nanana, ils vont aller chez des familles de riches, ça va bien se passer, on leur offre la grande vie. Ben oui, on peut le faire avec des bonnes intentions, sans se poser de questions. Henriette, qui a eu deux enfants biologiques, en a également recueilli un en tutelle et a adopté Véronique. Discutez aujourd'hui de la quête d'identité d'Inès, ébranle cette dernière, meurtrie par le même déracinement. Comment Inès est-elle ensuite arrivée aux mains des époux Lemaire? Nul ne le sait. Martine Duhamel a raconté qu'après l'étape chez Henriette, elle avait convoyé elle-même sa fille vers Bordeaux. Pour la remettre à qui? Dans quel cadre? Les archives de la FAP disent, elle, que Bérénice est passée temporairement par la Maison Blanche, une pouponnière de l'association située à Bourcefranc-le-Chapu, en Charente-Maritime. Mais ce séjour n'a laissé aucune trace dans son dossier administratif, à l'exception d'un bon de transport daté du 14 novembre 1973, autorisant le déplacement de Bérénice par des bénévoles. Plus grave encore, Martine Duhamel n'aurait jamais dû participer elle-même au transport de l'enfant qu'elle venait d'abandonner. Quant à la requête en adoption d'Inès, elle n'a été déposée que le 3 octobre 1974. Or, le bébé a été confié au Lemaire 7 mois plus tôt, le 7 mars 1974. Ça colle pas. Trop de coïncidences. Gênée aux entournures, la directrice de la FAF, Christine Delettre, avait livré à Inès des explications bien plus circonstanciées que la réponse officielle qui a été transmise à Libération. Lors du quatrième entretien, elle avait notamment reconnu que son association avait pu être un maillon de l'histoire nécessaire pour valider quelque chose d'une autre ampleur. Je cite: C'est une espèce de captation d'enfants, un rapt, avait-elle ajouté, suspectant finalement elle aussi le caractère commandité de l'adoption. Eh oui, les grands esprits se rencontrent, à un moment donné, quand on veut être un peu évident, un peu de bon sens. Des propos sur lesquels la FAF est restée silencieuse lors de l'échange contradictoire avec Libération. Il se trouve que l'hypothèse confessée par Christine Delette n'a rien d'impossible. De façon troublante, on retrouve de nombreuses personnalités liées à l'adoption d'Inès dans les agendas de Jean-François Lemaire. Ainsi, avait-il rendu rendez-vous le 28 août 1967 avec Fernand Aldorf, le notaire, qui 6 ans plus tard établira l'acte d'abandon de Martine Duhamel. Et que penser du rendez-vous du 22 août 1964 avec le fondateur de la FAF, Dominique Crétin? Ou de celui du 12 juillet 1961 avec François Delmas, notaire, illustre maire de Montpellier, dont les liens supputés avec Henriette interrogent. Et puis il y a cet autre notaire qui a réalisé les actes d'achat du 97 rue du Bac, Maître Dauchez. Était-il de la famille de l'entremetteuse? Il y a cette étrange confidence faite par Jean-François Lemaire à la fin de sa vie, lorsqu'il décrit à sa fille adoptive le regard de Martine Duhamel, qu'il n'est pas censé connaître. Je cite: Ta mère avait des yeux bleus, d'un bleu profond. D'où il sait ça? Il y a surtout sur une copie du jugement d'adoption daté de mars 2000, le nom de celui d'Inès, qu'Inès désigne comme l'un de ses agresseurs, l'avocat François Gibault, qui demeure mutique sur ce point. Il y a enfin cette sépulture monumentale, celle d'Henriette, installée non loin de celle d'un autre agresseur nommé par la plaignante, l'académicien Jean-François Revel, au cimetière parisien de Montparnasse. Je cite: Trop de coïncidences, ironise Inès, persuadée que pour comprendre son histoire, il reste de nombreux fils à connecter. Nous allons mettre là un petit complément sur Claude Imbert. C'est le journaliste Simon Blin. Pour vous rendre compte à quel point ces gens étaient importants, ces gens étaient des manias de la presse. Tout le monde les craignait, tout le monde attendait des choses d'eux, ils connaissaient tout le monde, ils avaient des infos sur tout le monde, et ils avaient le bras extrêmement long. Donc allons-y. Claude Imbert, accusé de pédocriminalité, un patron de presse entre influence et opacité. Parmi les hommes qu'Inès accuse d'avoir appartenu au groupe de pédocriminels, on trouve le fondateur du Point, mort en 2016. Ses références gréco-romaines et son goût pour le secret apparaissent sous un nouveau jour à l'aune des révélations de Libération. Comment se figurer à la lumière des révélations de Libération sur une affaire de pédocriminalité dans laquelle il apparaît et qui donne lieu depuis le 23 octobre 2003 à une enquête préliminaire du parquet de Paris que l'homme a rayonné sur une page de l'histoire du journalisme en France? Claude Imbert, qui fonda Le Point en 72 et qui est accusé de lui avoir fait subir rude varenne quand elle était toute petite, puis l'avoir violée chez lui dans la maison de vacances à Péroi, en Suisse. Les faits dévoilés par la plaignante viennent ébranler son image de figure de la presse, ayant fait partie de cette génération de grands patrons dont le nom est associé à un titre majeur, aux côtés de Claude Perdriel et Jean Daniel au Nouvel Observateur, ou de Jean-Jacques Servan-Schreiber des JJSS et de Françoise Giroud à l'Express. C'est dans les colonnes de ce dernier que l'ancien journaliste de l'AFP, où il a été reporter en Afrique, se fait un nom avant de quitter son poste de rédacteur en chef, reprochant à Jean-Jacques Servan-Schreiber de mettre l'hebdomadaire au service de ses ambitions électorales. Avec sept autres dissidents de l'Express, Claude Imbert lance Le Point, troisième news magazine à la française. La formule inspirée des titres américains comme Time ou Newsweek est un succès. Le nouvel hebdo classé à droite s'inscrit durablement dans le paysage médiatique dominé par la toute-puissance de la presse papier. Avec une telle réussite viennent pour Claude Imbert l'influence, le pouvoir, les réseaux. Incontestablement, le journaliste a prospéré dans la haute société, fréquentant tout au long de sa carrière les cénacles les plus courus du petit monde de l'élite parisienne. À commencer par le club Le Siècle, quintessence de l'établissement à la française, où se côtoient ministres, patrons du CAC 40, banquiers, militaires, avocats, majoritairement masculins, récemment éclaboussés par l'affaire Olivier Duhamel, élu à sa présidence en 2019, et contraint à la démission après des accusations d'inceste portées par sa belle-fille, Camille Kouchner, dans le livre La Familia Grande. Le Siècle est un cercle mondain, fondé en 1944 par le journaliste radical socialiste et franc-maçon Georges Bérard Quélin, fondateur de la Société Générale de Presse qui édite les lettres d'information professionnelle confidentielles comme la correspondance de la presse et le bulletin quotidien. Donc ça, ce sont des lettres d'information où il faut payer très cher, du genre 100 € le mois, un truc comme ça, pour avoir des infos sur les gens. Voilà, sur qui fait quoi, avec qui se marie qui à quel poste, dans quelle entreprise, etc., etc. Réunissant des membres parmi les plus puissants et influents de la classe dirigeante française. Le siècle correspond à ce que l'histoire et la sociologie politique appellent des lieux de sociabilité, des élites. Le siècle est un point de rencontre obligé pour ceux qui aspirent à diriger et ceux qui veulent continuer à le faire. On y retrouve de hauts fonctionnaires, presque tous les patrons des grandes entreprises, des politiciens de droite et de gauche, des banquiers, des magistrats, la plupart des grands dirigeants de la presse, des médias et de la communication, des journalistes qui font l'opinion, des économistes et quelques universitaires et quelques syndicalistes. Ce club suscite parfois une hostilité comparable à celle que suscite par exemple la franc-maçonnerie, même si, dans le cas du siècle, la liste des membres n'est pas tenue secrète. Le journaliste politologue et animateur sur Radio Courtoisie, Emmanuel Ratier, s'est intéressé de manière sociologique à la composition de ce club. Selon lui, son fondateur était un membre influent du Grand Orient de France, mais seulement 15 à 30% des membres du club seraient francs-maçons. Le siège du siècle est situé au 13 avenue de l'Opéra à Paris. Claude Imbert a également ses entrées à l'Automobile Club de France, autre cercle ultra fermé où les femmes ne sont pas admises, tout comme dans le très discret, mais non moins sélectif, Club des 100, dédié à la gastronomie française, lui aussi interdit aux femmes. Dans cette confrérie très codée, où l'on doit faire preuve de finesse d'esprit, Claude Imbert et le très gourmet Jean-François Revel apportent leur connaissance de la bonne chère à l'Assemblée, où siège aussi un médecin abonné à la société élégante, Jean-François Lemaire, relève les journalistes du Point Sophie Coignard et Marie-Thérèse Guichard dans Les bonnes fréquentations, histoire secrète des réseaux d'influence chez Grasset en 1997. Un système de pensée et de croyance. Personne ne se doute des agissements pédocriminels de la bande de la rue du Bac, au cœur de laquelle Clon Habert, décrit par Inès auprès de Libération comme un type normal, le plus normal de ses agresseurs, occupe une place centrale. Né dans une famille modeste de l'Aveyron, le jeune Claude Imbert intègre le lycée Carnot à Paris, où il fait la rencontre de Jean-François Lemaire, père adoptif d'Inès et futur cofondateur de l'INSEAD, Claude Janssen, dont la plaignante dit conserver des souvenirs fragmentaires. Le destin de ces trois hommes demeurera mêlé jusque dans la confection de leur puissant réseau d'influence, que parachève dans le cas de Claude Imbert la multiplication des titres honorifiques: commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre du Mérite, l'Ordre national du Mérite, officier des Arts et des Lettres. Les hommages de la classe politique étaient nombreux le jour de sa disparition à l'âge de 87 ans. Claude Imbert avait l'habitude d'en recevoir des représentants lors de dîners dans son duplex parisien de la rue du Cherche-Midi, à deux pas de la rue du Bac et de la rue de Varenne. Quelques années auparavant, l'ex-chef de l'État Valéry Giscard d'Estaing lui suggère de se porter candidat à l'Académie française sur le fauteuil de son ami de toujours, le philosophe Jean-François Revel, décédé en 2006, qu'Inès implique également dans son récit. Claude Imbert est battu par l'historien romancier Max Gallo, son seul véritable échec au cœur du Paris intellectuel. Que disent les écrits de Claude Imbert? Le journaliste est l'auteur d'une poignée d'essais et de romans qui donnent un aperçu de son système de pensée et de sa croyance. Le tombeau d'Aurélien, publié en 2000 chez Grasset, où il imagine un dialogue épistolaire entre un praticien romain du IVe siècle vivant sous le règne des empereurs Valentinien et Théodose et un haut fonctionnaire situé dans les années 90, témoigne de son étrange culte pour la culture gréco-romaine, une fascination esthétique et philosophique qu'il partage avec Mads Neff. Dans le livre Ce que je crois, essai publié paru en 84, Claude Imbert semble même esquisser, dans un style moins direct que celui de Mads Neff dans Les Passions schismatiques, une préférence pour les mœurs de l'Antiquité. Je cite: après tout, chez les anciens, où la sexualité n'était point culpabilisée, la diététique préoccupait plus les citoyens que la sexualité. La solennité du mariage romain de l'Empire, le culte de la fécondité, la tendresse de l'amour conjugal, cohabitaient sans gêne avec la facilité des divorces, l'amour des courtisanes et des garçons. Fin de citation. Ou encore, l'érotisme commence avec l'homme social, avec le tabou de l'inceste, et il n'y a point, par définition, de société de nature. La sublimation érotique a accouché d'une infinité d'idées d'amour liées à des cultures diverses. Chez nous, l'érotisme ne se limite pas, comme une confusion de langage le suggère, au catalogue des caresses. Le paradis des amours enfantines, le plus anodin billet doux, le sourire d'une jeune vierge font évidemment partie de la relation érotique. Fin de citation.